I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的穆林达家
正忙着。Todos juntos.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'écoute de Culture Monde, émission quotidienne d'actualité internationale. Xavier Martinet temporairement aujourd'hui au micro pour la deuxième journée de cette semaine thématique consacrée aux industries du futur en partenariat avec le festival Futur en scène. C'est Charles Le Gargasson à la réalisation et à la technique Alexandre Dang. Alors on évoquait hier la course aux clusters industriels innovants que tentent de se livrer entre eux les États. Ils parient sur des coopérations intenses entre le numérique et l'industrie de pointe et aujourd'hui on s'intéressera à l'autre aspect de ces industries nouvelles et collaboratives. On ira dans l'atelier, puisque c'est un aspect symbolisé ces dernières années par l'apparition des Fab Labs ou autres hackerspace. En gros, l'usinage à portée de tous et l'expansion de ces petites usines coopératives est désormais rapide. On discutera justement des dénominations et des différences. Pour cet ensemble de lieux, il est vrai, assez hétérogène. Les annonces de création de Fab Labs ces derniers jours dans le monde en témoignent. Par exemple, un Fab Lab associatif à Tahiti, un en partenariat avec le college d'une petite ville de Virginie aux États-Unis où l'on peut s'abonner à $30 par mois, un autre toujours aux États-Unis parrainé là par l'industriel Chevron juste en face de San Francisco, un autre sans parrain industriel à l'université de Venise en Italie ou encore sept Fab Labs annoncés par le gouvernement philippin tout récemment. Bref, qu'on les appelle Fab Lab ou Hackerspace, voire Makerspace ou encore Tech Shop, tous ces ateliers ont un point commun, c'est l'utilisation par le grand public de petites machines-outils à commande numérique, des appareils longtemps réservés à l'industrie, la grosse industrie. Dans ces Fab Labs, on y fabrique un peu de tout, des chaises, des jouets, des chemises, des robots, voire des salades, un peu de tout, mais avec enthousiasme et en autonomie, presque une sorte d'appel à l'innovation par le détournement.
L'idée principale au début, c'est de faire un Fab Lab à niveau de rue, donc un Fab Lab vraiment un lieu sans aucune appréhension. C'est pas du tout un lieu élitiste.
Ici, c'est un endroit où vous pouvez construire tout ce que vous pouvez imaginer. De l'électronique, un jouet ou n'importe quel objet dont vous pourriez avoir l'utilité.
C'est une imprimante 3D fabriquée à partir de déchets informatiques recyclés. Ça, par exemple, c'est la carcasse d'une unité centrale que nous avons pris pour donner la forme à la machine.
Les villes seront le centre du futur de l'humanité et nous devons donner le pouvoir aux villes et aux citoyens. Nous devrions créer un labo comme celui-ci dans chaque quartier afin que tout le monde puisse avoir accès à cette technologie.
Welcome to Noisebridge. This is a hackerspace in San Francisco.
Bienvenue à Noisebridge. C'est un hackerspace de San Francisco. Nous avons des machines pour fabriquer des choses à partir de plastique. Voici une découpeuse laser. Vous pouvez faire des panneaux simples, mais vous pouvez aussi faire des choses plus compliquées, comme par exemple cette gravure sur bois. C'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. À Noisebridge, nous fonctionnons selon le principe de la duocracy, la démocratie du faire. C'est assez simple. Si vous voulez le faire, s'il vous plaît, faites-le.
Please do it. Voilà, du Togo à San Francisco en passant par Barcelone, un aperçu sonore de cette expansion mondiale des Fab Labs ou de leurs cousins. En 2014, même le maire de Barcelone, Javier Trias, annonçait à l'occasion du forum Fab 10 vouloir faire de sa ville la première Fab Cité du monde. Alors tous ces ateliers approchent une certaine idée du travail et réactualisent aussi des termes longtemps marginaux dans le vocabulaire de l'industrie et du développement. Parmi eux, donc le hacking, c'est-à-dire le bidouillage, le bricolage, mais aussi le making. Ou le crafting, la fabrication, l'invention, l'expérimentation. Alors à quoi a-t-on affaire ? Est-ce une pure passion pour les nouvelles technologies, voire technofantasme comme le disent certains, ou une radicale critique en creux de la société de consommation et du travail salarié ? Les Fab Labs sont-ils inoffensifs ou bien subversifs ? Peut-être entre les deux. Alors peut-on parler de l'élaboration d'une certaine douocratie ? C'est vrai que le mouvement FAIRE, F-A-I-R-E, est puissant. Il a ses rassemblements, ses médias qui attirent des dizaines de milliers de personnes chaque année. Pour pour ce mouvement qui a fait le sien presque à la lettre. Vous l'avez entendu, ce slogan d'une grande marque de sport, « Please do it, I just do it », il n'y a qu'un pas ou un bond de géant. Alors il faudra regarder qui finalement fait les Fab Labs ou les Hackerspace, qui y travaillent et ce qu'ils font de leur production, parce qu'ils sont multiples et expérimentaux, c'est la caractéristique de ces lieux. C'est même des laboratoires de changement social, c'est l'expression que vous employez à la fin de votre dernier livre, Michel Lallemand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au CNAM et CNRS et auteur de l'année dernière de L'âge du fer, donc aux éditions du Seuil, un livre qui est le résultat d'une longue étude parmi les Fab Labs de Californie. Et puis, laboratoire du changement social, c'est aussi une expression que vous reprenez en titre d'un article collectif, justement dans la dernière revue Recherche sociologique et anthropologique qui paraît en ce moment. Isabelle Bérébi-Hoffmann, bonjour.
Bonjour.
Sociologue également, vous avez étudié un Fab Lab au Sénégal, vous êtes en ce moment à l'université de Harvard, dans la région de Boston, et vous étudiez donc les Fab Labs du MIT, pour lesquels il y a un cahier des charges assez précis. Je précise tous les deux que vous êtes membre du laboratoire LISE, également au CNAM. Alors, les Fab Labs ont ce cahier des charges, mais ils se transforment déjà. On joindra en direct de Boston également Jean-Michel Molnar, c'est un Hollandais installé aux États-Unis, professeur à l'université Tufts de Boston, qui collabore étroitement avec le MIT. Là, on parlera de ces Fab Labs 2.0, voire du biohacking. Et puis, d'autres espaces de ce type se tournent, eux, vers la rentabilité économique et l'entreprise classique s'y intéresse. On fera un saut en fin d'émission jusqu'en Chine pour écouter David Li, un Taïwanais installé à Shanghai où il a fondé en 2010 le Fab Lab Qinzhejiang. Pas seulement, tient-il désormais à nous dire. On parlera aussi de la grande ville de Shenzhen où il veut commercialiser les produits des Fab Labs. Alors, les Fab Labs, c'est une dénomination MIT, je l'ai dit, sur la côte est à Boston. Mais dans votre ouvrage, Michel Lallemand, vous évoquez notamment ce fameux Fab Lab de Northbridge, on va en reparler, et la région de San Francisco, qui est une région traditionnellement, pourrait-on dire, de hacking et de cracking, de hackers destructeurs.
Oui, il y a une longue tradition historique qui constitue en quelque sorte les racines du mouvement fer qu'on observe aujourd'hui. Pour le dire en un mot, ce mouvement a commencé à prendre forme véritablement il y a une dizaine d'années. Hein, on a vu vraiment les premiers hackerspace et un peu plus tard les Fab Labs sur la côte Est apparaître. Mais ces nouvelles organisations réinventent de toutes pièces, pourrait-on dire, le travail. Elles sont le produit au fond de deux courants qui se sont combinés, parfois opposés, mais vraiment combinés pour donner sens à ce qu'on observe aujourd'hui. Le premier courant, c'est véritablement toute l'histoire de l'informatique, puisque le terme de hack vient de l'informatique. Le terme de hack a été, dans son sens actuel, effectivement, Isabelle le dira peut-être, inventé d'abord sur la côte Est, puis repris sur la côte Ouest, pour redonner du sens à l'idée de bidouillage, de bricolage, d'usage intelligent de matériaux, de moyens hétérogènes, pour arriver, au fond, à aboutir à la production d'objets que l'on souhaitait produire. Donc, d'une certaine manière, le hacking est une anti-pensée d'ingénieur, hein, c'est vraiment une pensée de bricoleur.
Donc ce qui est important, c'est que c'est un bidouillage productif.
C'est un bidouillage productif au service de l'innovation qui peut avoir des conséquences marchandes. Et le fait qu'on soit dans la baie de San Francisco, donc juste tout près en fait, de la Silicon Valley, qui est une partie de la baie de San Francisco, n'est vraiment pas un hasard. Donc toute cette tradition-là informatique est importante. Et puis il y a une deuxième tradition qui irrigue largement tout ce mouvement fer aujourd'hui, versant Hackerspace, Fab Lab, etc. C'est toute la contre-culture, et notamment vous savez que la contre-culture libertaire était très forte à la fin des années 60 à San Francisco, et cette contre-culture a porté avec elle tout un ensemble de valeurs, l'autonomie, la flexibilité, la décentralisation, tout un ensemble de valeurs que l'on retrouve aujourd'hui mises en pratique en fait dans ces ateliers du futur que sont les hackerspace, les Fab Labs.
Et de plus en plus, donc la sociologie s'y intéresse effectivement. On a vu, donc vous avez dit que les Fab Labs sont apparus, les hackerspace, disons dans le courant des années 2000, mais ça fait déjà peut-être 10 ans, 15 ans, voire 20 ans que un certain nombre de sociologues s'intéressent à ces nouvelles manières, on pourrait dire, de travailler. Alors là-dessus, Madame Bérébi-Hoffmann, il y a un certain nombre de théoriciens. Hier, par exemple, la grande table à France Culture recevait Matthew Crawford, qu'on appelle le philosophe du carburateur, le philosophe mécanicien, parce qu'il a écrit l'éloge du carburateur. Mais il y a aussi toute une production hein, sociologique. Richard Sennett qui a écrit Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat. Il y a Pascal Jolivet qui parle de communisme scientifique. Ou même en France, Pierre-Michel Menger, donc grand sociologue du travail, qui a écrit Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain. Il y a donc un intérêt magnifique des sciences sociales pour étudier, on pourrait dire, les mécanismes précis de cette économie et le travail en acte.
Tout à fait. Mais
Si vous voulez, ça fait quand même 20 ou 30 ans qu'on voit des grands mouvements, à la fois culturels et productifs. Donc Pierre-Michel Menger, vous avez cité, parlait de ce que Florida appelle les creative workers ou la creative class, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement vers la création. Mais pour revenir sur les Fab Labs et les Makerspace, ce qui nous a intéressé, nous, dans ce mouvement global, c'est qu'en fait, il y a une revendication en acte, c'est-à-dire dans les Makerspace, c'est ce qu'on fait, de se réapproprier la chaîne productive, qui, dans l'économie classique, appartient à des entités verticales, que sont les entreprises, et de façon propriétaire. Donc en fait, il y a une forme de mouvement démocratique que permet le numérique, que permet la culture digitale, que permet la culture des millennials collaborative, qui consiste à créer des lieux où on va, d'une certaine façon, hacker l'ensemble du système productif qui est fermé. Donc il s'agit de reconquérir l'accès à l'objet, l'accès à la conception, l'accès à la production, dans une forme de personnalisation de la fabrication qui devient fabrication personnelle. Mmh. C'est ça les Fab Labs, c'est l'accès à la fabrication personnelle avec des machines qui permettent ça, depuis l'imprimante 3D jusqu'à la fraisseuse. Donc il y a une revendication politique et il y a qui passe par le faire, c'est-à-dire qu'on fait une autre économie qui est parfois gratuite, qui est parfois de la décommodification, c'est-à-dire on va partager, sortir du marché la production de certains biens. Les Fab Labs aujourd'hui et les membres de l'économie circulaire par exemple revendiquent le fait qu'on peut construire une maison pour 10 000 euros entièrement dans le système de Fab Lab local.
Alors est-ce qu'il s'agit justement, puisqu'on entre dans ce vif du sujet, d'une revendication politique en acte? Michel Lallemand, vous citiez effectivement ce vieux fonds politique en Californie, il y avait le mouvement Yippies par exemple dans les années 50-60, voire un peu plus tard, ou alors est-ce qu'il s'agit simplement d'un acte à portée éthique, se rapprocher de la main, se rapprocher du crafting, le plaisir de créer, disons?
En fait, je dirais ni l'un ni l'autre, mais les deux à la fois. Et en réalité, pour comprendre le mouvement faire ou ce monde des makers, des hackers, il faut bien comprendre qu'il y a une tension entre deux pôles qui structurent cet univers-là. Vous avez d'un côté plutôt des hackers, des makers qui sont plutôt, disons, technophiles. Et c'est vrai qu'on les trouve d'abord plutôt dans les Fab Labs qui se revendiquent en tant que tels. Et ce qui compte avant tout, c'est cette capacité à se réemparer du geste productif, à lui donner sens, à s'inspirer de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique hacker. Cette éthique hacker, elle est fondée notamment sur plusieurs principes, mais les plus importants sont: un, il faut que le travail nous fasse plaisir. Vous voyez, donc c'est vraiment la passion qui doit gouverner notre façon de travailler. Et deuxième chose, c'est l'idée que lorsqu'on travaille, on coopère de façon horizontale. Donc l'antimodèle d'organisation, c'est IBM. Il faut vraiment qu'on soit dans le collectif, auto-organisé, etc. Donc vous avez cette premier pôle-là. Et puis, il y a un deuxième pôle qui vise à tirer la philosophie du hacking vers d'autres domaines que la production classique, en disant, au fond, on peut hacker n'importe quoi. Cette éthique du hacking, on peut l'appliquer à des tas de domaines, y compris les domaines politiques. Et donc, on peut hacker la société, on peut inventer d'autres formes de vivre ensemble. Et on retrouve, en fait, ces deux dimensions-là. Et c'est vrai que les hackerspace, pour le coup, sont souvent davantage porteurs de cette articulation entre le politique et le technique que les Fab Labs. En réalité, tout se mélange. Mais je durcis à dessein l'opposition.
Et précisément, dans ces hackerspace, donc vous avez passé un certain temps dans le premier hackerspace de San Francisco, qui remonte à 2007-2008, je crois,
pour 2007,
la, oui, 2007, la création effective. Donc, il se situe à Noisebridge, qui est un quartier de l'est de San Francisco. Vous le dites, assez pauvre, en fait. Donc, ça crée un certain contraste avec, disons, la richesse potentielle de ce qu'on peut créer dans ce Fab Lab. Physiquement, donc, il n'y a pas de poste réservé. On peut le voir sur les vidéos. C'est un espace qui est apparemment fondamentalement ouvert par l'usage, mais il est bien cloisonné par certaines règles tout de même.
Oui, alors c'est le paradoxe apparent, mais il est qu'apparent, de ces communautés, notamment Noisebridge, qui revendiquent, un héritage anarchiste, en disant, nous, on se défait de toute forme de règles, et notamment de toute structuration par des hiérarchies verticales, pour donner la possibilité au collectif de s'auto-organiser dans sa façon de fonctionner tous les jours. Mais en réalité, ce que l'on voit vite, et puis c'est un résultat résultats qu'on a obtenus par ailleurs dans d'autres collectifs de ce type-là, c'est que pour que le collectif fonctionne, que chaque individu se sente à l'aise, qu'il puisse faire fonctionner la douocratie, pour reprendre le terme qui a été mentionné tout à l'heure, en réalité, il faut plein de règles au quotidien pour permettre à chacun de se sentir bien dans des collectifs qui sont plutôt des sommes d'individus cimentés par des règles collectives. Donc dans ces univers-là, on redonne droit à l'individu. En fait, il faut beaucoup de travail du collectif sur lui-même pour donner la possibilité à ce collectif de perdurer et de fonctionner avec efficacité.
On va voir dans deux minutes, Isabelle Berébi-Hoffmann, ce qu'il en est dans les Fab Labs de type MIT sur la côte Est, mais je voudrais continuer sur Noisebridge juste un certain temps. Donc vous avez mené à peu près 80 interviews, vous avez identifié différents profils, on pourrait dire, de hackers. Vous parliez justement de ces passionnés, sans doute ceux que vous appelez les virtuoses, il y en a d'autres effectivement, et puis on parlait de cette question du militantisme. À Noisebridge, globalement, comment vous a semblé justement l'esprit de Noisebridge ? Est-ce qu'il s'agit de militants politiques ? Est-ce qu'il s'agit plus classiquement, disons, de passionnés ?
Alors, en fait, comme pour reprendre l'opposition que j'évoquais tout à l'heure, vous avez d'un côté une population de jeunes hommes qui souvent ont été formés aux sciences de l'informatique, de la technique, de l'électronique, qui pour certains d'entre eux revendiquent une espèce d'identité pure de hacker et pour qui hacker, bricoler, etc., c'est fondamentalement le geste informatique. Et puis, vous avez d'autres jeunes garçons, jeunes filles, parce que pour l'essentiel, ce sont des gens qui ont entre 20 et 30 ans, hein, pour les situer. Beaucoup de garçons, d'ailleurs. Noisebridge est même une exception, parce qu'il y a 25% de filles, ce qui est beaucoup hein, dans le milieu hacker-maker, ce qui pose une vraie question, d'ailleurs, hein, pour le devenir de ce mouvement, et qui, eux, disent, eh ben, puisque on s'empare de cette philosophie hacker et qu'on l'applique à la société, beaucoup d'entre eux sont très proches au fond des mouvements alternatifs de la baie de San Francisco, à commencer par Food Not Bombs, qui est une association qui vise à récupérer la nourriture qui a été jetée, qui n'a pas été utilisée, etc., pour refaire à manger. Vous voyez, on est vraiment dans le geste du hack, on reprend des choses qui, a priori, ont été jugées usagées, pour leur redonner une utilité sociale, faire à manger avec des gens qui crèvent de faim dans les rues de San Francisco, parce qu'il y en a quand même pas mal hein, dans certains quartiers. Et donc, on applique le geste du hack à des fins politique. Mitch Heltman, qui a fondé Noisebridge, a inventé un petit instrument qui s'appelle TV Beacon, qui est censé arrêter toutes les télévisions au nom, justement, d'un geste politique en disant « les médias disent pas toujours des choses qui m'intéressent, et donc je vais utiliser la technique ». C'est vraiment une conviction forte des hackers, c'est que la technique peut nous aider à transformer le monde. Et donc, il a inventé ce petit appareil-là pour transformer le monde et changer notre pratique quotidienne de l'usage des médias.
Alors ça, c'est pour Noisebridge. Et puis, ce qui est intéressant et assez fascinant à San Francisco, c'est qu'entre, justement, 2007, la création de Noisebridge, et aujourd'hui, il y a un grand nombre de hackerspace qui se sont développés. Alors, ils ont tous des noms, on pourrait dire, qui sont presque des programmes à eux tout seuls, de Crucible, Ace Monitor Toys, Mothership, Hacker Moms, Hacker Dojo, Bioker, comprennent qui veut, mais est-ce que ce sont tous les mêmes ? Est-ce qu'ils sont du type Noisebridge ? Et comment ça se fait qu'ils soient développés aussi vite ? C'est lié effectivement à cette ambiance de recyclage et à ce.
Oui, alors d'abord la première chose à dire, c'est que lorsqu'on fait le décompte aujourd'hui, le nombre de hackerspace dans la baie de San Francisco a été multiplié par 10. Donc en quelques années, vous voyez, ça s'est multiplié. La chose frappante et qui pour un esprit français peut paraître un peu curieux, c'est que tous ces espaces sont structurés par une logique communautaire. Noisebridge, ce sont plutôt des jeunes blancs anards. Hacker Moms, c'est un hackerspace pour femmes. LOL, c'est un hackerspace qui est plutôt dédié aux minorités ethniques et sexuelles. Ace Monster Toys, qui est impossible à dire, en fait, c'est un anagramme, donc c'est un clin d'œil à un film qui a été tourné à Auckland et qui est plutôt pour des pères de famille qui ont la quarantaine avec un passé plutôt libertaire, etc. Donc il y a une structuration communautaire, ce qui n'empêche pas, en fait, tous ces gens-là de se connaître, de circuler, etc. Et c'est pas forcément le même type de configuration que l'on a lorsqu'on va de l'autre côté des États-Unis ou même dans le reste du monde.
Alors exactement, Isabelle Berébi-Hoffmann, il y a effectivement, on pourrait dire, toute une typologie des espaces type Fab Lab. Ça va du hackerspace au Fab Lab type MIT, qui a un cahier des charges assez précis finalement dans la région de Boston, puisqu'il n'est pas labellisé, mais le MIT donne une liste de matériel à acheter.
Oui, il donne une liste et donc c'est Neil Gershenfeld qui, à partir de son cours How to Make Almost Everything, a développé ce mouvement. Il y a aujourd'hui, depuis le début des années 2000, une Fab Foundation qui est située à Boston aussi, qui organise le réseau des Fab Labs qui adhèrent à la charte du MIT. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça coûte cher en fait d'adhérer à la charte et d'acheter les machines qui permettent l'adhésion à la charte. Donc beaucoup de Fab Labs ou de Makerspace ou d'Hackerspace se revendiquent Fab Labs, etc. sans adhérer. Donc pour donner une idée, il y a une dizaine seulement de Fab Labs sur Boston, Cambridge, Somerville qui adhèrent à la charte, et il y a une quarantaine d'espaces Fab Lab, Makerspace, qui le plus grand Makerspace de Somerville, puisque c'est là le terreau où a été fondé les premiers Hackerspace, du côté côte-est, qui fait 4000 mètres carrés, qui est immense, se revendique Makerspace et ne veut pas de l'appellation Fab Lab. Pourtant, il y a un Fab Lab, il y a des imprimantes 3D, il y a des découpeuses laser, etc. etc. Mmh. Donc en fait, on a un mouvement avec des dénominations qui varient, mais où on retrouve, quand on visite, quand on interviewe les gens, exactement les mêmes façons de faire, parfois les mêmes personnes, pas complètement, et des structures qui se ressemblent, une culture collaborative, et surtout des projets politiques proches à la douocratie, l'absence de hiérarchie, la collaboration, le partage de savoir, l'accès à l'objet, libérer l'objet. Donc il y a par exemple des campagnes contre le nouvel iPhone, parce que Apple a changé la vis de l'iPhone, et aujourd'hui on ne trouve pas de tournevis dans aucun supermarché, aucun caillerie américaine qui peut ouvrir cette vis. Donc il y a une bataille rangée en amont entre les mouvements makers qui revendiquent la possibilité de dévisser l'iPhone. Donc ils construisent les tournevis qui permettent de dévisser les iPhones aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a une tension politique, mais qui n'est pas dans les journaux, sur on veut se réapproprier démocratiquement, que chacun puisse avoir accès à tous les objets, les démonter, les trafiquer, en changer l'usage. Et c'est une revendication de liberté démocratique pour tous aujourd'hui que permet le digital, que permet le partage de savoir et ces espaces qui se démultiplient.
Et justement, si on comprend bien que finalement, du point de vue du matériel et peut-être des modes de production transversaux, il n'y a pas de différence fondamentale entre les Hackerspace côte ouest et les Fab Labs de type MIT, quand bien même, justement, est-ce que le fait que ce soit des Fab Labs labellisés d'une institution, ça ne crée pas une tension supplémentaire? Justement, vous parlez de cet objectif politique de pouvoir dévisser la vis de l'iPhone entre le MIT et puis les grands groupes, ce qu'on peut ne pas avoir quand il s'agit de Fab Lab ou de Hackerspace disséminés, justement.
Alors, c'est pas toujours facile en France de comprendre qu'en fait, il y a une imbrication assez harmonieuse entre les entreprises, le marché, les services payants que font également les makerspace. Quiconque a visité Boston dans les 10 dernières années se rend compte qu'il est en train de se passer quelque chose sur les espaces, parce que la transformation passe aussi par la façon dont sont organisés les espaces. Donc si je reviens sur le MIT, il y a une tradition qui est partie du MIT qui part des années de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un bâtiment. Au MIT, les bâtiments portent tous des numéros. Building 7, 6, 8, ils n'ont pas de nom. Enfin, si, certains ont des noms quand il y a eu des donations comme le Strata Building. Il y avait un building qui est préfabriqué, qui a été préfabriqué pendant la Seconde Guerre mondiale, où on a mis le laboratoire de radiologie, qui était extrêmement célèbre. Il est parti. Et ensuite, on a mis absolument tous les labos, les étudiants dont on ne voulait pas. Noam Chomsky a travaillé dans ce bâtiment préfabriqué, sans ventilation, sans air conditionné, avec des murs en carton, où on entendait tout pendant 20 ans.
Dans un tout petit bureau. Bâtiment de marginaux, donc.
Bâtiment de marginaux. Et c'est là qu'on a inventé ce terme, la serendipity. Mais c'est surtout là que les laboratoires, les gens se croisaient tout le temps et avaient la liberté qu'ils n'avaient pas dans les autres bâtiments du MIT à cause des régulations, des règles, de bouger les murs. C'est-à-dire, on construisait pour des expériences des murs nouveaux, on tirait des fils, etc. Donc, en fait, il y a une tradition d'abaisser les murs entre les personnes qui est partie du MIT. Il y a aujourd'hui 130 makerspaces à l'intérieur du MIT, à l'intérieur, et toute une série de lieux. Donc, je citerai un seul lieu qui est complètement imprégné, le Broad Institute. C'est le premier institut de recherche sur le cancer aujourd'hui, qui s'est construit avec Harvard. Vieille compétition, ils ont cassé cette frontière-là, avec des chercheurs du monde entier, dont l'idée est de repousser les limites de la recherche. Tout le monde peut rentrer dans le Broad Institute, tout le monde peut visiter les labos, tout le monde peut contribuer. Si vous voulez chercher, vous pouvez, si vous êtes un individu. Et c'est une révolution dans le monde de la recherche en médecine aujourd'hui. Donc les portes sont ouvertes, le Media Lab c'est pareil, tout est transparent, les portes sont ouvertes, etc. Donc il y a une culture et des lieux divers qui s'imbriquent avec un tissu économique, un écosystème qui ne fait pas la différence. En fait, entre des entreprises, les deux systèmes coexistent, y compris dans les mêmes lieux.
Oui, donc on pourrait dire presque schématiquement et historiquement, marginalité, transversalité, démocratisation, et puis aujourd'hui, grand succès de cette tech belt, comme on dit à Boston, notamment la route 128, où se trouvent la plupart des entreprises et des Fab Labs. Et puis ça profite à la ville aussi, là, selon les journaux américains, la population de Boston a augmenté d'1 million de personnes en 25 ans, et c'est un des taux de chômage les plus bas des États-Unis. Il est à moins de 4%, alors qu'on est à 5 et quelques sur la moyenne nationale. Donc, effectivement, on peut voir que les souhaits de Javier Trias, là, le maire de Barcelone, peuvent être exaucés potentiellement. On va joindre tout de suite, justement, Jean-Michel Molnar, qui se trouve à Boston, du côté du MIT. Bonjour, Jean-Michel Molnar.
Bonjour.
Et merci beaucoup de vous être levé si tôt pour nous. Donc vous êtes en ce moment professeur à l'université Tufts de Boston. Vous donnez des cours de biohacking en collaboration avec le MIT et vous pilotez aussi une entreprise de mise en réseau des Fab Labs mondiaux au Royaume-Uni. Alors peut-être on pourrait commencer par parler de votre parcours personnel puisque vous êtes hollandais. Là vous enseignez aux États-Unis, mais vous avez aussi parcouru une partie de l'Europe. Vous êtes allé en Norvège, en France ensuite. Tout a commencé en 2007 aux Pays-Bas, finalement, la création et votre participation à la fondation de Fab Lab.
Oui, effectivement, ouais. C'était en 2007, fin 2006, en fait, qu'on a entreprise à Amsterdam. En fait, on avait deux entreprises en Amsterdam qui sont chacun, en fait, commençait un Fab Lab. Et à l'époque, personne ne savait vraiment ce que c'était, à quoi ça sert. Et à travers d'une stage, en fait, dans une de ces deux entreprises, un peu par hasard, je me suis retrouvé comme, on va dire, première Fab Manager en Hollande, parmi certaines autres. Et donc, en fait, c'est là où l'histoire a commencé, où moi, je suis commencé à vraiment m'intéresser à ce mouvement maker. Et à travers des recherches, en fait, et les questions qu'on a posées autour de tout ça, j'ai pu découvrir que quelques gens du MIT et des autres instituts, en fait, donc parmi Neil Gershenfeld et Sherry Lassiter, qui est donc le manager du programme de CBA, Center for Business Analysis, qu'eux, ils donnaient en fait des cours tout au nord, dans Norvège, dans un Fab Lab qui était construit avec l'aide du MIT. Donc en fait, si vous êtes tout au nord, plus haut que le cercle polaire,
oui, c'est vers Tromsø,
au plein milieu de rien, il y a un panneau d'un coup MIT Fab Lab.
Alors c'est un Fab Lab étonnant d'ailleurs, avec ces quatre maisons, je crois, on voit la photo sur internet au toit incliné, ça ressemble à des maisons de Vikings, et c'est là qu'on trouve un des premiers Fab Lab type MIT en Europe alors.
Bah c'est ça, donc en fait je suis allé là-bas pour ce qu'on appelait un bootcamp, donc en fait c'était pour apprendre à utiliser les machines et manager un Fab Lab, on va dire. Et je me suis retrouvé effectivement dans un petit village viking presque, avec des saunas, avec des montagnes autour, tout construit en bois. Maintenant, il y a un grand cheminée au plein milieu du Fab Lab. C'est un milieu un peu magique. Et en fait, je me suis retrouvé là-bas avec des gens de Ghana, de Nairobi, de San Diego, de partout en fait. Pour un cours donc à utiliser et on a fabriqué des imprimantes 3D en 2008 déjà et en fait tous ces gens-là ils avaient à peu près le même esprit on va dire et c'était d'une certaine sens qu'ils étaient plus vraiment contents avec le système dans lequel on vivait économiquement socialement et ils n'étaient pas militantes on va dire mais je pense qu'ils avaient chacun l'idée que Il y a des autres façons de faire des choses, des autres façons, en fait, de travailler ensemble, de faire l'éducation, de fabriquer. Et en fait, c'est là-bas où ça a commencé que j'ai compris que j'étais pas tout seul avec mes idées, même pas seulement en Hollande à l'époque, mais sur la Terre entière, en fait, il y a plein de gens qui pensent un peu pareil, qui ont envie de faire des choses différemment.
Donc déjà, un milieu transnational, on le comprend. D'ailleurs, vous êtes ensuite allé à Grenoble, où vous avez aussi été manager d'un Fab Lab qui est aujourd'hui très connu, qui s'appelle la Casemate. Puis vous êtes allé à Boston. Il vous a semblé, justement, dans votre parcours, qu'il y avait des pays qui étaient, disons, plus sensibles ou plus réceptifs que d'autres à cette question des Fab Labs, ou non, finalement, ce sont des individus.
Bah, je pense pas en fait. C'est mon parcours en fait, et surtout à cause de mon intérêt au monde autour de moi et des choses que moi j'aimerais avancer. Donc, je suis chez Tufts maintenant parce qu'en fait, il y a vraiment la possibilité de créer un nouveau espace sur lequel on travaille, dans lequel on essaye vraiment de mélanger donc ce qu'on appelle le making, hein, donc la fabrication numérique et la biologie de synthèse. Donc faire pousser des choses, mais à un niveau très 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 bas, donc au niveau moléculaire, au niveau du ADN. Et en France, d'un certain sens, le fait que j'étais venu en France, c'était à l'époque ma copine, mais maintenant ma femme en fait, qui est française, et qui m'a amené là-bas, à vivre là-bas. Et c'est un peu pareil, par hasard en fait, que j'ai retrouvé la Casemate, qui était le premier CCST de France en fait.
C'est ça.
Depuis une trentaine d'années, qui voulait ouvrir un Fab Lab et donc qui cherchait quelqu'un qui pouvait prendre ça en main et travailler dessus.
Et la Casemate, qui est un Fab Lab un peu particulier, puisque vous m'expliquiez en préparant l'émission qu'il était établi avec de nombreux partenariats locaux avec des entreprises, donc il y a beaucoup de configurations possibles. Maintenant, vous êtes à Boston, vous avez évoqué les biohack labs, le biohacking. Justement, vous donnez des cours à l'université à ce sujet. Il y a quelque chose de particulier avec le biohacking, c'est qu'on change d'échelle quand même par rapport aux machines type imprimante 3D, découpeuse laser, on n'est plus dans le centième de millimètre, mais plutôt dans le nanomètre. Est-ce que ça ne fait pas un saut technologique trop important justement aujourd'hui pour les Fab Labs et pour qu'ils évoluent?
C'est une très bonne question, et juste pour être précis, ce n'est pas là-dessus que je donne les cours chez Tufts. Moi, je focalise vraiment chez Tufts sur la fabrication numérique, donc d'une certaine sens qu'on fait historiquement dans les Fab Labs et pas dans les Biolabs. Et en fait, c'est une seule technologie, mais en même temps, les technologies qu'on trouve dans un Fab Lab ou dans des espaces pareils étaient beaucoup plus dures et beaucoup plus compliquées à utiliser depuis une dizaine d'années. Le fait qu'on peut avoir un découpeur laser ou même un imprimant 3D chez nous, on va dire, ou dans un lab à côté de notre maison qu'on peut chacun utiliser, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Des interfaces en fait sur l'ordinateur avec lequel on pilote ça, pour lequel avant on avait vraiment besoin d'étudier ça longtemps. Ça veut pas dire que la biologie de synthèse et donc faire pousser des choses, c'est beaucoup plus simple que ça, mais c'est plus simple qu'avant de mettre les pieds là-dedans. Et je pense aussi que en fait ça va avoir le même courbe que cette démocratisation en fait de la technologie, et c'est juste que les biolabs, ils sont un peu derrière en fait. Donc on a l'habitude des labs comme les Fab Labs, les imprimantes 3D, ils sont partout, oui. on en parle tout le temps, et même si pour moi c'est un peu le micro-ondes en fait de la cuisine qui est un Fab Lab, c'est super intéressant comme technologie, mais l'accessibilité en fait de tout ce qu'on trouve dans un hackerspace a augmenté énormément, et je pense qu'on va avoir à peu près le même mouvement, la même idée dans le biohackerspace, et donc pour ce moment c'est vraiment un début.
Et puis on a...
c'est très nouveau, quoi. C'est l'aube de ça.
C'est ça, mais
l'aube des Fab Labs était en 2006, un peu.
En tout cas, c'est un début très ambitieux. On voit que le tout premier aux États-Unis, Biolab, il a été fondé à Brooklyn en 2009, et que déjà, là, sur leur site, ils affichent effectivement des travaux avec la technique CRISPR-Cas9, qui consiste à, disons, découper des molécules d'ADN avec des enzymes. Donc, il faut effectivement des machines très compliquées. Et pour terminer sur cette évolution des Fab Labs, on pourrait dire type MIT. On parle aussi pas mal du Fab Lab 2.0. Je voyais une interview, par exemple, de Neil Gershenfeld, donc effectivement ce physicien du MIT, qui prévoyait presque en février dernier ce qu'il appelait la fin des Fab Labs. Il disait qu'il fallait désormais s'orienter vers le Personal Fabricator. En gros, c'était tout un Fab Lab contenu dans une seule boîte, puisqu'il précise qu'un Fab Lab, ça coûte 100 000 euros, vous lisiez Isabelle Béré-Bioffman, et ça pèse 2 tonnes, en gros, l'ensemble des machines.
Ouais, ouais. Bah, effectivement, à travers mon entreprise, on a envoyé pas mal de Fab Lab partout sur la terre entière et ça pèse très lourd, mais c'est très très cher. L'idée du Fab Lab 2.0, en gros, c'est de dire, bon, je le prends autrement. La rêve, d'une certaine sens, c'est que pour ce moment, ce qu'on fait, c'est que pour en grande partie des gens, les produits qu'on utilise et qu'on consomme, ils sont fabriqués en Chine ou ailleurs dans des endroits très spécifiques sur la Terre et après répartis sur la Terre. Et donc l'idée, c'est le premier pas, c'était d'arrêter de faire ça d'une certaine sens et de fabriquer des machines là-bas, les amener ailleurs et après les utiliser pour fabriquer des objets localement. Et le prochain pas, donc Fab Lab 2.0, c'est d'une certaine sens fabriquer des machines avec des machines localement et après utiliser ça pour fabriquer des objets autour de nous. Donc Neil, il va très loin de là-dedans et je pense que c'est justement aussi là où se trouve une différence, une coupure presque entre donc le Fab Lab qui s'inscrivent dans le Fab Academy, donc ce qui est une cour donnée par Neil même par vidéoconférence et qui consiste d'un groupe très actif en fait des Fab Labs sur la Terre entière et sur lequel on a basé qu'on fait maintenant de Bio Academy, donc en fait c'est moi qui pilote avec David Kong ici à Boston en fait cette même cour qui est donnée par vidéoconférence. Et là on trouve vraiment des gens qui travaillent vraiment un peu au bout des choses, vraiment des choses très poussées, ou pour ce moment avec cette groupe beaucoup et surtout avec Nadia Peik qui travaille au MIT, on essaye de fabriquer en fait des modules avec lesquels on peut faire toutes les machines en Fab Lab.
C'est ça.
Donc l'idée, effectivement, de dire qu'on ne va plus acheter un découpeuse laser et un imprimante 3D et un fraiseuse numérique.
On va mettre tout en un.
On fabrique avec des modules, on va dire des axes, hein, donc X, Y et Z. Et là-dessus, on peut mettre un tête et ça peut être un laser, ça peut être un extrudeur, ça peut être un outil qui tourne pour creuser la matière. Et presto, on a une machine. Et donc la machine va devenir beaucoup plus modulaire, beaucoup plus facile à transporter, parce qu'en fait on va pouvoir le plier. Ça me rappelle un peu du fold wrap hein, qui était développé en France, petite imprimante qui se plie.
En tout cas.
Donc en fait l'idée c'est d'aller là-bas, c'est de dire on va arrêter même d'acheter des machines, on va acheter des composants, donc quand même des moteurs et tout ça, et on va avec ça fabriquer des machines. Et la rêve finale, l'utopie finalement, donc avec l'insertion de la biologie de synthèse, c'est qu'on n'a même pas plus besoin de faire ça.
Et on verra ce qu'il en est du rêve final justement. On comprend que ça demandera des machines quand même autrement plus compliquées. Donc on va continuer à suivre ces résultats des Biohack Lab au fil des ans. Je vous remercie beaucoup d'être intervenu au téléphone, Jean-Michel Molnar. Merci beaucoup. Retour en plateau, peut-être juste un dernier commentaire sur cette évolution des Fab Lab MIT. Isabelle Bérébi-Hoffmann, vous pensez que c'est une évolution qui effectivement peut à terme arriver à produire ces machines ultra complexes finalement?
Disons, ce qu'on voit, c'est qu'il y a... J'ai beaucoup aimé l'interview, à la fois où, à un moment donné, Jean-Michel Molnar disait, c'est à ce moment-là, au fin fond de la Norvège, que j'ai compris que j'étais pas tout seul. C'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a une dimension de culture et de rencontre qui se fait pour repousser les frontières justement de l'organisation propriétaire du marché vertical. Donc là, effectivement, le rêve, c'est la fabrication personnelle, mais ça existe déjà. Si vous allez sur TED aujourd'hui, il y a une jeune femme qui explique comment vous pouvez choisir vos jupes et vos vêtements, les dessiner et les fabriquer en ligne et qui vous donne le site et qui vous livre la jupe ou le vêtement que vous avez fabriqué tout de suite après. Les entreprises de textile s'y intéressent beaucoup.
Donc c'est déjà là, voilà. Effectivement.
C'est déjà là. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus.
Bon, je voudrais juste qu'on dise un mot de l'Afrique avant de passer à la Chine tout de même. Alors, j'ai pas les chiffres, seulement des reportages ponctuels, mais c'est vrai qu'au Niger, au Bénin, au Togo, on voit d'abord ces collaborations transnationales qui sont presque la règle aujourd'hui. Il y a une éclosion des Fab Labs qui est nette, qui est symbolisée aussi par un produit, on pourrait le dire. C'est le Jerry Clan ou le Jerry Do It Together, un Jerry Can classique en fait qui sert de boîtier d'ordinateur avec des composants de récupération. Écoutez ici au Togo.
You might be asking yourself, well, you know, what would I do in a...
On n'est pas au Togo, on était aux États-Unis justement dans un biohack lab, mais on vient de passer le sujet. On va voir si on retrouve cet extrait de reportage au Togo. Justement, c'est Edem Achille Alomatsi qui est un informaticien à la tête du Voe Lab togolais.
Est-ce que quelqu'un parmi vous ici maîtrise de l'outil informatique déjà? Est-ce que vous avez un ordinateur à la maison? Est-ce que vous maîtrisez un peu l'ordinateur? Oui. Et s'il y a quelqu'un parmi vous? Oui. L'Afrique de l'Ouest, c'est le dépotoir informatique des pays occidentaux actuellement. Donc on se dit que voilà, avec tous ces éléments qu'on a sous la main, on peut facilement essayer de faire du bien avec, quoi, en les utilisant pour faire des diaries. Vu que ça encourage le recyclage informatique, ça devient aussi un projet écologique. Et ça contribue principalement à la dépollution de l'Afrique. Cet atelier permet aux élèves, surtout que nous avons devant nous ici, de pouvoir toucher l'outil informatique, de pouvoir eux-mêmes faire leur propre ordinateur, de maîtriser un peu les outils, ce qui n'était pas aussi évident, vu les problèmes sociaux que nous avons ici. Donc déjà, ça peut leur permettre d'avoir une ouverture d'esprit sur ce que c'est que l'outil informatique.
Alors voilà, justement, Isabelle Bérébi-Hoffmann, vous avez été, vous, au Sénégal, étudier le Joko Lab, qui est un lab assez différent du Voe Lab togolais. Juste en 30 secondes, parce qu'on a très peu de temps, mais on voit effectivement qu'il y a une vision assez presque pittoresque dans ce reportage du Fab Lab avec ce produit, le Jerryclan, une vision développementiste. Mais avec le Joko Lab de Dakar, ce qui est intéressant, c'est que les logiques s'inversent presque.
Oui, alors il y a deux systèmes dans ce que j'ai pu voir à Dakar, c'est-à-dire que vous avez toute une série de Fab Labs qui sont fondés sur de la récupération, avec les gens du MIT qui viennent enseigner, ou de France qui viennent enseigner comment construire un Fab Lab. Joko Lab a pris le contre-pied de ça. C'est-à-dire ils se sont créés en SARL, ils ont demandé à Google de venir leur construire leur système digital. Pendant 2 ans, Google a travaillé avec eux, ils ont le premier Wi-Fi et système digital de toute l'Afrique. Le Wi-Fi qui marche le mieux de Dakar, meilleur que ceux des entreprises. Et là, ils sont une soixantaine, il y a Emmanuel et Karim qui étaient les fondateurs. Ils ont, par exemple, loué leurs locaux à une agence qui veut changer l'image de l'Afrique. Au lieu de diffuser justement des jerrycans et de la récup, ils diffusent des gens qui ont en costume, qui ont fait le MIT et qui, par ailleurs, ont inventé, par exemple, le paiement sur mobile. Pour pouvoir se passer des banques occidentales.
Qui est une application mondialement connue aujourd'hui, effectivement.
Aujourd'hui, par exemple, Franny Léautier, qui était vice-présidente de la Banque mondiale et qui vient de passer à la Banque du Développement, en mars 2016, n'arrête pas de répéter que c'est l'Afrique qui a inventé le système bancaire sur téléphone mobile. Et donc, que le système n'existait pas avant. Donc ils sont dans ce mouvement-là et ils viennent de créer un réseau de Joko Lab, dont un Joko Lab qui s'est créé à Nanterre.
Et il fallait le dire, effectivement. Ouais. On voit que les logiques presque nord-sud peuvent s'inverser. On va retrouver tout de suite David Lee, qui est en Chine, donc 45 ans, taïwanais, fondateur du premier hackerspace chinois, ou makerspace, comme ils veulent dire. C'était en 2010, mais en 5 ans, tout a changé, puisqu'aujourd'hui, il se tourne plutôt vers, il insiste dessus, les Fab Labs ou makerspace à vocation commerciale. Pour lui, effectivement, il y a un modèle positif en Chine, qu'il soit collaboratif, privé ou d'État. Il tient beaucoup à parler globalement de ces makerspaces en suivant le plan du gouvernement chinois lancé en 2015, un grand plan de makerspace pour tous, le Chongqing Kongqian. On va écouter tout de suite David Lee.
We started the makerspace. It wasn't a fab lab, but it's pretty interchangeable these days.
Nous avons créé un makerspace et non pas un fab lab, même si les deux termes sont assez interchangeables aujourd'hui. En fait, nous n'avons pas demandé à nous joindre au réseau mondial des fab labs et nous avons gardé ce nom de makerplace, un lieu où l'on fait des choses. Au départ, nous étions un groupe d'amis passionnés de matériel électronique en open source, libre d'accès. On fabriquait des imprimantes 3D, des drones, des robots, et on avait tout ce qu'il fallait pour cela à Shanghai. Mais avec le temps, nous avons rempli nos habitations et on avait besoin d'un endroit pour continuer à expérimenter. En ce qui concerne le fonctionnement, nous avions créé un système de membres avec une adhésion de 100 yuan, soit à peu près 10 euros par mois. Donc au début, nous étions juste un groupe de bidouilleurs, on était tous passionnés par les techniques nouvelles. Et c'est comme ça qu'on a fini par se retrouver ensemble, et à l'époque, en 2010, les autorités n'étaient pas impliquées.
Mais après quelques années, le gouvernement chinois s'est finalement intéressé à la question. Le premier ministre Li Keqiang s'était rendu dans des makerspaces de Shenzhen en 2014. Et puis, peu après, en janvier 2015, le gouvernement a annoncé une nouvelle politique appelée Chongqing Kongqian, les makerspaces pour les masses. Ça vous a aidé?
Je pense que ça a été un très fort encouragement pour tous ceux qui voulaient faire des makerspaces en Chine. Il y a en effet quelques fonds alloués par les autorités, par exemple au Shenzhen Open Innovation Lab. Ce sont les autorités de Shenzhen qui financent une partie. Mais pour le premier makerspace, Xinjiangshan, à Shanghai, nous n'avons reçu aucune aide gouvernementale. Mais aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus une activité seulement récréative. En fait, jusqu'à 2011-2012, je dirais que les makers étaient effectivement surtout des passionnés qui voulaient d'abord fabriquer pour le plaisir. Pour moi, c'est surtout en 2012 que le gros tournant a eu lieu, parce que c'est là que les makers ont commencé à utiliser les financements participatifs, ce qui leur a permis d'avoir une puissance commerciale sans tous les risques financiers traditionnels. Et c'est ça qui a ouvert de grandes opportunités pour les makers chinois.
Et vous-même, vous avez délaissé ce premier makerspace à Shanghai pour en créer de nouveaux à Shenzhen, la grande ville de l'électronique mitoyenne de Hong Kong. Pourquoi ?
En fait, après 2012 et surtout 2013, il m'est apparu clairement que l'avenir des makers ne serait pas tourné vers le loisir. C'est même un changement de paradigme. Tout le monde pouvait être maker. C'était la grande démocratisation de l'Internet et du matériel. En fait, je travaille sur deux projets à Shenzhen. En 2014, le groupe Intel m'a contacté pour faire le Maker Collider. Là, il s'agit d'apporter davantage de petits matériels, de développer l'intelligence artificielle. Et pour le projet parrainé par les autorités de Shenzhen, le Maker Open Innovation Lab, le but est de donner l'opportunité aux makers de porter leur propre projet à un niveau supérieur. Et là, nous les aidons pour la production, la distribution et même le e-commerce.
Alors Shenzhen est souvent connu d'abord pour sa production de téléphones mobiles, de matériel électronique, très inspiré au départ du matériel occidental. Il y a même un terme pour cela, Shanzai, qui veut dire bandit. Ça a peut-être une connotation un peu négative. Est-ce que ça a un lien, selon vous, avec l'esprit des makerspace en Chine ?
Vous savez, quand on parle du Shanzai, c'est un écosystème bien plus large que celui des makerspaces. C'est un système qui rapporte à l'année environ 200 milliards de dollars. C'est énorme et ça explique en partie pourquoi Shenzhen et la Chine sont en train de devenir l'épine dorsale du mouvement FAIR. Il y a beaucoup de traits communs aux deux systèmes. Ils sont très ouverts et basés sur le partage, que ce soit des codes informatiques ou du matériel. Et à Shanghai aussi, nous avons un terme local qui désigne l'activité coopérative. Souvent, dans l'écosystème de Shanghai, les entreprises développent des produits en commun. Et pour moi, c'est la même chose que pour les makers. Donc, par leur nature coopérative et ouverte, ce sont deux systèmes très similaires. Alors, à mon avis, il y aura toujours de la place pour les bidouilleurs et les makers passionnés, mais la prochaine étape, c'est l'arrivée de makers qui ont des buts plus directement commerciaux. Et effectivement, je pense que Shenzhen est un lieu très particulier dans le monde pour y arriver. C'est une agglomération de 18 millions d'habitants, mais elle fabrique environ 90% de l'électronique pour les 7 milliards d'habitants. Donc, elle est très habituée à penser et repenser la manière d'utiliser le matériel informatique et tout ce qui concerne Internet. Et ça, c'est parce qu'il y a déjà sur place ce grand système coopératif. Il n'y a plus qu'à la connecter au mouvement global des makers.
Et justement, quelle différence est-ce que vous faites entre les makerspaces chinois et puis le développement des Fab Labs ou des autres espaces comme les hackerspaces dans le monde ?
C'est vrai que ces 10 dernières années, il y a eu un important développement des makerspaces aux États-Unis et en Europe. Et pour moi, aux États-Unis, on a affaire à des accélérateurs d'innovation, des incubateurs. Là, il y a une différence très nette entre les makerspaces qui sont encore le fait de bricoleurs et ceux qui s'orientent vers un but clairement commercial. Mais en Europe, la frontière n'est pas si nette. Je travaille aussi avec le British Council pour faciliter les échanges entre les makers britanniques et chinois. Je suis allé au Royaume-Uni 2 fois cette année et j'y ai vu différents types d'endroits. Et là aussi, je n'ai pas vu de distinction très claire entre les espaces de bricoleurs et les espaces commerciaux. Mais en Chine, c'est une vraie tendance. De plus en plus, le but des makers est commercial. Et c'est vraiment notre grande idée cette année. C'est d'arriver à faire un lien au niveau mondial entre ces inventeurs à tendance commerciale et la Chine.
Alors du coup, si les rapprochements entre les makers et les buts commerciaux se font de plus en plus intenses, quelle différence est-ce que vous faites aujourd'hui en Chine entre les makerspaces et puis l'industrie traditionnelle ?
Vous savez, la définition traditionnelle de l'innovation dans l'industrie repose en très grande partie sur la protection de la propriété intellectuelle. Mais au fil du temps, ce système de protection ne protège plus essentiellement que les petits inventeurs. C'est surtout un outil pour protéger un statu quo industriel. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment l'innovation ouverte. C'est ce qu'on a vu à l'œuvre dans le mouvement Maker et c'est ce qu'on voit aussi de plus en plus dans le Shanzai. La propriété intellectuelle est de plus en plus librement partagée et de plus en plus de gens s'impliquent dans ce système, dans des processus de création. L'innovation technologique n'est donc plus un droit exclusif réservé à quelques-uns, mais c'est l'innovation pour les masses, par les masses.
En tout cas, ce qui est massif, effectivement, c'est le développement des makerspaces en Chine. Dans un article du Monde auquel vous aviez donné une interview en février, le journal lui parle d'une centaine de makerspaces déjà en Chine. C'est un développement très rapide.
Non, en fait, ils ne sont pas seulement une centaine de makerspaces. C'est à peu près 100 si vous vous en tenez à la définition assez étroite d'un makerspace typique. Mais il faut aussi regarder les makerspaces de masse, qui sont issus du Gongshuang Gongjing, ce plan lancé par le gouvernement en 2015. Rien qu'à Shenzhen, on en compte à peu près 300. À Shanghai, je dirais qu'ils sont environ 250. Et sur l'ensemble de la Chine, on est bien à 2000 makerspaces. Et ils continuent de faire la même chose. Ils aident les individus à concevoir des objets, à les fabriquer et à commercialiser leurs créations. Et là aussi, je prends ce chiffre comme un puissant encouragement. C'est ce qui nous mène sur la voie de la démocratisation des logiciels et des machines.
Et voilà, David Lee, un véritable plaidoyer pour l'open source, on pourrait dire ça, Michel Lallemand.
Oui, tout à fait. Et le fait de prendre la Chine est vraiment tout à fait pertinent, parce que les Chinois ont décidé qu'à eux seuls, ils allaient doubler le nombre de makerspaces dans le monde en à peine 2 ans. Ce n'est pas un hasard si la prochaine rencontre internationale des Fab Labs, qui va avoir lieu en août, là, va avoir lieu à Shenzhen. Donc il se joue quelque chose de très puissant à partir de la politique chinoise, qui nous rappelle une chose, c'est qu'en fait, les makerspaces ne sont pas des bulles qui se développent en dehors de tout environnement. Donc l'expérience chinoise montre très bien dans quelle mesure il y a des écosystèmes, notamment avec le monde marchand qui se joue là, avec des enjeux effectivement de réinvention de propriété intellectuelle, ce qui a été dit de façon extrêmement claire dans le cas présent. Effectivement, l'invention de nouveaux types de propriété intellectuelle autour des Creative Commons, Copyleft, change la donne hein, du point de vue de l'innovation, des droits de propriété, etc. Et donc ça bouleverse complètement, d'une certaine manière, la façon de faire innovation dans l'univers marchand, mais pas que. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est que les entreprises sont effectivement très très intéressées aujourd'hui. Il y a une association de Fab Lab d'entreprises qui s'est créée en France il y a quelques mois, qui s'appelle Fab & Co, qui intéresse Renault, Orange, Asnecma, etc. Mais ça infuse aussi dans le système éducatif, ça infuse aussi dans le monde de l'éducation populaire. Donc, ça diffuse un peu partout dans la société et c'est ça qui est passionnant aujourd'hui à observer.
Ça diffuse, tout l'intérêt étant de ne pas reverticaliser cette production. Exactement. Et en tout cas, à vous entendre, le pire mot que je connaisse en français, c'est bof. Je cite Neil Gershenfeld, justement. On comprend un peu mieux l'esprit des Fab Labs. Et voilà, California Dreaming des Mamas and Papas, mais aussi repris par les Beach Boys, musique de surfeurs. Pourquoi les surfeurs? Parce qu'ils fabriquent leurs planches à la main, justement. On appelle ça le shape, donner une forme. Merci donc à toute l'équipe de Culture Monde aujourd'hui et d'abord à nos invités, Michel Lallemand et Isabelle Béré-Bioffmann, sociologues tous les deux au CNAM CNRS. Merci à toute l'équipe de Culture Monde, donc Tiffaine de Rocchini, Clément Salzar, Hélène Paquet, Charles Le Gargasson à la réalisation et Alexandre Dang à la technique. On les écoute encore un peu. Et demain, vous retrouverez donc Florian Delorme pour la suite de ses aventures innovantes.